Bonjour à chacun, chacune. Trente prédications. Huit prédicateurs différents. Environ 18 heures d'enseignement. Et près de 2 ans. Voilà ce qu'il nous a fallu pour arriver à l'épilogue final de notre série d'enseignements sur l'évangile de Marc que nous avons eu de temps en temps, le dimanche matin, régulièrement, depuis 2 ans maintenant. Si vous êtes fan de séries télévisées, j'imagine qu'il y en a quelques-uns parmi nous, que ce soit policier, romantique ou je ne sais quoi, médical peut-être, vous savez que l'épisode qui conclut la saison en cours, l'épisode où le dénouement de l'intrigue se joue, est souvent l'épisode le plus essentiel, le plus important de la série. Et nous arrivons justement à cet épisode-là, dans notre série sur l'Évangile de Marc. Nous avons fêté la Pâque, et on l'a redit ce matin encore, la semaine dernière. Et nous avons évoqué déjà ces sujets, mais je pense que ces textes sont suffisamment riches et suffisamment importants pour que nous y revenions encore ce matin, pour finir, pour mettre la boucle finale à cette série d'enseignements sur l'Évangile de Marc, et pour encore constater la gloire et la puissance de notre Dieu, Jésus-Christ, qui est passé de la mort à la vie. Jésus-Christ. Ce matin, nous allons étudier un texte assez long, depuis le Marc 15, verset 16, jusqu'au chapitre 16, verset 8. Nous ne traiterons pas de l'épisode final, on va dire, de Marc, chapitre 16, verset 9 à 20, tout simplement parce qu'il y a de nombreux doutes sur l'authenticité de cette partie-là de l'évangile de Marc. Plusieurs manuscrits anciens n'ont pas cette partie-là, et que ça demanderait peut-être plutôt un axe, une prédication complète sur ce sujet-là, s'il y a besoin, plus tard. À 6 heures du matin, et après avoir subi pas moins de 6 procès, Marc ne relate pas tous les procès que Jésus a subis, après 6 procès, Jésus est finalement condamné à mort par Pilate, malgré son innocence. Il s'agit sans aucun doute de la plus grave erreur judiciaire de tous les temps. Un innocent a été condamné à mort. Christ ne méritait absolument pas d'être condamné. Mais il s'est laissé faire pour être condamné à mort à notre place, à ta place, à ma place. Comme l'écrit un commentateur, tout ce grand drame qui commence avec l'arrestation dans le jardin de Gethsémané et s'achève par la lance qui perce son côté à Golgotha était tellement illégal que si Jésus avait prononcé une seule phrase pour affirmer ses droits, la crucifixion n'aurait jamais eu lieu, ni selon la loi juive, ni selon la loi romaine. Mais il n'a pas parlé. Il a choisi de souffrir. Pourquoi a-t-il choisi de souffrir? Pour qui a-t-il choisi de souffrir? C'est tout le sujet de cet épilogue final. Et je vous propose de commencer notre lecture donc dans Marc 15, versets 16 à 32. Vous aurez le texte qui va s'afficher là, vous pouvez aussi suivre dans vos Bibles. Marc chapitre 15, verset 16. J'ai oublié le...
Les aléas du direct, excusez-moi.
Hop. Voilà, hop. On va y arriver. Marc chapitre 15, verset 16. Les soldats emmenèrent Jésus dans la cour intérieure du palais et firent venir toute la cohorte. Alors ils le revêtirent d'un manteau de couleur pourpre, ils lui posèrent une couronne tressée de rameaux épineux. Puis le saluèrent en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils le frappaient à la tête avec un roseau et crachaient sur lui, s'agenouillaient et se prosternaient devant lui. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui arrachèrent le manteau de couleur pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent hors de la ville pour le crucifier. Ils obligèrent un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, a porté la croix de Jésus et ils amenèrent Jésus au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent du vin additionné de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils le clouèrent sur la croix, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce qui reviendra à chacun. Il était environ 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'écriteau sur lequel était inscrit le motif de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Avec Jésus, ils crucifièrent 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient « Hé, toi, qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix !» De même aussi, les chefs des spécialistes se moquaient de lui avec des spécialistes de la loi. Ils se disaient entre eux « Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il était incapable de se sauver lui-même, lui, le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende donc de la croix, alors nous verrons et nous croirons. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Après avoir été condamné à mort par Pilate, Jésus va d'abord subir des insultes et les coups de quelques soldats romains, une cohorte. Toutes les insultes que subit Jésus à ce moment-là sont basées sur une parodie royale. Il est couvert d'un manteau écarlate, verset 17. Il s'agissait probablement d'un manteau militaire, une sorte de cape appartenant certainement à l'un des soldats, jeté sur les épaules de Jésus. Et sa couleur écarlate rappelait le pourpre des manteaux royaux, des manteaux de l'empereur. Et selon Ésaïe 1, verset 18, cette couleur-là, c'est aussi la couleur du péché. Et beaucoup de multiples commentateurs pensent que ce manteau, d'une certaine manière, symbolise le péché que Jésus va revêtir à la croix, va porter à la croix. Il lui tresse une couronne aussi, faite de longues épines d'environ 30 cm. Et ces longues épines s'enfonçaient profondément dans sa tête, ajoutant encore à sa douleur à l'effusion de sang à ce moment-là. Et enfin, ils font mime de le saluer comme un roi, tout en crachant sur lui et en le frappant. Ces soldats se sont moqués de la prétention de Jésus à être roi. Alors que de son côté, Jésus lui fait preuve d'une retenue incroyable. Il a la puissance de réduire tous ces hommes à néant en un claquement de doigts. Mais il est dans la retenue à ce moment-là. Je me suis souvent demandé quelle a été la réaction de ces soldats quand, après leur mort, ils se sont rendus compte de ce qu'ils avaient fait, à qui ils avaient fait cela, au roi des rois. Ils ont frappé, insulté, craché sur le roi des rois. Je ne sais pas vous, mais la violence de ce passage me choque. C'est presque pour moi plus choquant d'une certaine manière que la violence de la croix. Parce qu'on voit vraiment des hommes se moquer, se pourrir Jésus. Penser que de simples hommes ont osé insulter, cracher, frapper le roi des rois. On peut avoir le sentiment qu'une telle attitude est très loin de nous. Jamais on n'aurait fait ça. Est-ce que c'est vrai? Quand Jésus s'est dévoilé à Paul sur le chemin de Damas, Paul qui martyrisait les chrétiens, qu'ils emmenaient en prison, qui a même été l'instigateur de l'assassinat d'un chrétien, Étienne. Cet homme-là, quand Paul était sur le chemin de Damas, Jésus s'est révélé à lui et lui a dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. » Est-ce que Paul persécutait Jésus lui-même? De toute évidence, non, parce que Jésus était déjà retourné auprès du Père. Paul ne persécutait pas Jésus directement, mais il persécutait l'Église de Jésus. Il persécutait les enfants de Dieu. Quand je crache sur un frère ou une sœur à cause de la jalousie, à cause d'une colère mal placée, à cause du mépris ou par ragot, quand je crache sur un frère ou une sœur, je crache sur Jésus. Combien de fois est-ce que j'ai craché sur Jésus? Et toi, combien de fois est-ce que l'un ou l'autre d'entre nous ici présents a craché sur Jésus? Le comportement de ces soldats me choque. Et pourtant, il m'est arrivé bien des fois d'avoir exactement le même. Après cela, Jésus prend la direction de Golgotha. Normalement, il aurait dû porter sa croix en réalité la barre horizontale, appelée patibulum, et qui pesait environ 45 kilos. Il aurait dû porter cette croix, mais il est tellement épuisé qu'il n'y arrive pas. Il est affaibli à un point extrême, ce qui illustre un des aspects les plus poignants de son humanité. On oblige alors un certain Simon de Cyrène à aider Jésus au verset 21. Ils obligèrent un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre de Rufus, à porter la croix de Jésus. Cet homme n'est pas volontaire pour cette tâche-là, loin de là. On peut dire qu'il est au mauvais endroit, au mauvais moment. Marc nous livre un détail qui n'est pas à négliger. Il est dit que Simon est le père d'Alexandre et de Rufus. Et dans Romains 16, verset 13, Paul salue un certain Rufus, justement, que beaucoup identifient comme étant le fils de Simon de Cyrène. On pense que Marc a écrit son évangile depuis Rome, peu après la rédaction de l'épître aux Romains, justement, de Paul, et qu'il présente Simon comme le père d'Alexandre de Rufus parce que ce sont des gens connus à Rome, parce que ce sont des hommes qui sont des contemporains de Marc à ce moment-là, quand il écrit son évangile. On peut imaginer donc que le fait que Simon ait porté la croix de Jésus l'a amené à la foi. Cet homme qui était au mauvais endroit, au mauvais moment, a été béni. Comme quoi Dieu peut se servir de toutes les situations possibles et imaginables pour toucher les cœurs. Jésus arrive finalement à Golgotha, où il va être crucifié. Golgotha est un mot araméen qui a donné en latin calvaire et qui signifie le lieu du crâne. Et juste avant la crucifixion, on propose à Jésus de boire un vin mêlé de myrrhe. De quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit tout simplement d'un narcotique. Juste avant la crucifixion, on propose ce narcotique à Jésus parce que c'est la coutume de le faire. Les Juifs avaient pour coutume d'administrer aux victimes de la crucifixion un tel médicament mélangé à du vin afin de soulager la douleur. Et les Romains, eux, toléraient que ce breuvage soit administré aux hommes condamnés à la crucifixion, plus pour les empêcher de se débattre quand on les clouait sur la croix, que par compassion. Jésus lui a refusé ce breuvage. Mais pourquoi ? Pourquoi a-t-il refusé ce breuvage ? Pour ne pas diminuer ses douleurs ? On peut quand même penser que l'atténuation des douleurs n'aurait diminué en rien l'efficacité de son sacrifice, l'efficacité de son œuvre de pardon, de rédemption pour chacun d'entre nous. Je ne pense pas que c'est là qu'il faille voir. Mais sûrement plus pour ne pas émousser ses sens avant que son œuvre ne soit accomplie. Jésus avait besoin de toutes ses facultés mentales, psychologiques, pour réaliser toutes les prophéties qui devaient être réalisées au moment de la croix, toutes les paroles qu'il devait dire au temps de la croix. Jésus a refusé un certain « confort » entre guillemets, qui aurait pu lui faire manquer sa mission. Et nous, qu'en est-il ? Nous sommes loin de souffrir sur une croix. Mais est-ce que nous sommes capables de refuser certains conforts quand Dieu nous montre sa volonté ? Un confort de temps, peut-être ? Un confort d'argent, de programme, de sommeil, je ne sais quoi. À quel point sommes-nous prêts à refuser un certain confort pour obéir à Dieu ? Marc nous dit simplement au verset 24 qu'ils le crucifièrent, sans donner aucun autre détail. C'est très dépouillé comme scène. Aucun des évangiles d'ailleurs ne donne une description détaillée de la façon dont Jésus a été crucifié. Très, très dépouillé comme scène. On sait juste que Jésus a été crucifié à 9h du matin, 3h après avoir été condamné à mort par Pilate. Voilà comment se passait une crucifixion selon les historiens. On obligeait le condamné à s'allonger par terre et ses bras étaient étendus et cloués sur la barre horizontale qu'il avait portée. On hissait ensuite cette barre avec le supplicié accroché dessus et on le fixait sur le poteau vertical. Les pieds étaient cloués sur le bas du poteau où on clouait parfois dessous un bout de bois qui servait d'appui à la victime, non pour la soulager, mais plutôt pour prolonger son agonie. Nu et battu, le condamné pouvait rester exposé à la brûlure du soleil pendant des heures, voire des jours. Et pour respirer, le crucifié devait pousser sur les jambes et tirer sur les bras, ce qui provoquait des douleurs atroces. Des crampes musculaires torturaient le corps tout entier. Se laisser aller entraînait l'asphyxie, de sorte que la lutte pour la vie continuait. Et les crucifiés étaient en lutte pour la vie, le temps qu'ils avaient les forces pour lutter. Après l'avoir crucifié, les soldats se sont partagés les vêtements de Jésus. On voit ça au verset 24. Cela a été prophétisé par David dans le psaume 22, verset 19. C'était l'usage d'agir ainsi. Les vêtements de leurs victimes étaient habituellement le butin des bourreaux. Et à propos du partage de ces vêtements, un commentateur, Denet, écrit « La seule vie parfaite qui était menée de ce monde est la vie de celui qui ne possédait rien et qui ne laissa rien, sinon les vêtements qu'il portait. » Le partage des vêtements de Jésus est le symbole du fait que Christ a été dépourvu de tout à sa mort. Le sujet de la condamnation de Jésus est indiqué sur l'inscription au verset 26. Il est dit « L'écriteau sur lequel était inscrit le motif de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. » En comparant les évangiles, il semble que l'inscription complète qui figurait sur la croix était celle-ci. « Celui-ci est Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. » Selon Jean 19, verset 20, cette inscription était écrite en trois langues, hébreu, grec et latin, ce qui est un témoignage involontaire de la royauté universelle de Jésus. Par cette inscription, l'intention de Pilate n'était sans doute ni de se moquer de Jésus, ni de l'honorer. Il a peut-être simplement choisi ce motif comme un affront aux autorités religieuses juives qu'il avait d'une certaine manière forcé à condamner Jésus à mort. Jésus est crucifié entre deux brigands. Et en plaçant Jésus entre deux brigands, Pilate a eu peut-être l'intention d'insulter un peu plus les juifs en insinuant que leur roi ne valait pas mieux qu'un brigand, qu'un voleur, criminel. Mais cela témoigne surtout de l'accomplissement d'Ésaïe 53, verset 12, qui nous dit à propos de Jésus, « Il a été compté parmi les criminels. » Il a été compté parmi les criminels. Poursuivons au verset 33. À midi, le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité, et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En entendant ces paroles, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, voilà qu'il appelle Eli. Un homme courut imbiber une éponge de vinaigre, la piqua au bout d'un roseau et la présenta à Jésus pour qu'il boive en disant, « Laissez-moi faire, on va bien voir si Élie vient le tirer de là. » Mais Jésus poussa un grand cri et expira. Alors le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. Voyant de quelle manière il était mort, l'officier romain qui se tenait en face de Jésus dit, « Cet homme était vraiment fils de Dieu. » Il y avait aussi là quelques femmes qui regardaient de loin. Parmi elles, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques le Jeune et de Jos, ainsi que Salomé. Quand il était en Galilée, c'était elle qui l'avait suivi en étant à son service. Il y avait aussi beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. 3 heures. Pardon. On va y arriver. 3 heures après avoir été crucifié, à partir de midi, les ténèbres recouvrent la terre pendant 3 heures supplémentaires. Et à propos de ces ténèbres, Douglas Webster a écrit « À la naissance du Fils de l'homme, de Fils de Dieu, en pleine nuit, le ciel s'illumina, les anges apparurent. À la mort du Fils de Dieu, en plein jour, le ciel s'obscurcit. » Ces ténèbres représentent la séparation avec Dieu, qui est lumière, et sont le signe du jugement de Dieu. Et à propos de ces 3 heures de ténèbres, Greg Harris a écrit « Pendant 3 heures, la colère divine épanchée est acceptée par le seul capable de la recevoir. Pendant 3 heures, la soumission silencieuse et volontaire de l'agneau de Dieu, Jésus. Pendant 3 heures, Jésus a payé la plénitude des péchés passés, présents et futurs. Pendant 3 heures, le Père a frappé le Fils de toute la colère que lui seul pouvait manifester. Et puis soudain, il s'est arrêté. Vers 15 heures de l'après-midi, Jésus lance un cri qui exprime son sentiment d'abandon au Père. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y a une véritable rupture entre le Fils et le Père. Une véritable rupture. À ce moment-là, Christ a porté le péché du monde. Et Dieu s'est alors retiré car il est saint et ne peut supporter le péché. 2 Corinthiens 5, verset 21 explique bien cela. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Il est évidemment difficile de comprendre comment le Fils a pu être abandonné par le Père. Campbell Morgan résume merveilleusement cela, je trouve. Aucun homme ne pourra jamais traverser dans sa vie une épreuve aussi terrible que le silence et le mystère. Les heures de solitude et d'angoisse, quand il n'y a pas de réponse, ni vision, ni compassion, ni promesse, ni espoir, ni explication. Les moments où l'âme se demande pourquoi. Aucune agonie de l'âme humaine n'est comparable à celle du silence, du pourquoi. Quand on me demande d'expliquer l'agonie, quand on me demande d'expliquer l'expiation, pardon, je réponds qu'au centre de cet événement gigantesque, le Seigneur lui-même a demandé pourquoi. Et s'il a posé cette question, je ne prétends pas pouvoir un jour expliquer les profondes vérités centrales du mystère de la souffrance de Christ. Au-delà de ce mystère, il y a une question plus importante qui se pose et qui demande une réponse tout aussi importante. Est-ce que j'ai bien saisi, est-ce que j'ai bien compris le prix payé par Christ pour moi? Mon péché est terrible et il a provoqué l'abandon du Fils par le Père. Il a provoqué l'abandon du Fils par le Père. Est-ce que nous sommes conscients à quel point Christ a souffert à cause de notre péché? Si nous en sommes bien conscients, alors quelle est mon attitude aujourd'hui? Est-ce que je me complais encore dans le péché? Ou est-ce que je le rejette? Parce que plus je serai conscient du prix payé par Christ à la croix, plus je rejetterai le péché. Et plus la croix devient une habitude, une tradition, voire quelque chose de normal, et plus le péché m'envahira dans ma vie. C'est un fait. Nous avons le devoir de nous rappeler du prix payé sur la croix. Parce que c'est en se rappelant ce prix payé sur la croix que je pourrai lutter efficacement dans ma vie contre le péché. Après la mort de Christ, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, le lieu très saint qui était l'endroit de la présence même de Dieu à cette époque-là, s'est déchiré. Ce voile s'est déchiré du haut vers le bas, ce qui indique clairement qu'il ne s'agissait pas d'une œuvre humaine, mais d'un acte divin. Cela signifie surtout que l'accès vers Dieu est aujourd'hui ouvert à chacun. Il n'y a plus besoin d'aller vers un lieu très saint. Dieu se rend accessible à chacun d'entre nous. Hébreux 10, versets 19 à 20 l'affirme. « Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour rentrer dans le lieu très saint. » Chacun d'entre nous, nous avons cette liberté. Nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Le centenier, l'officier romain qui était là, qui avait sans doute assisté à de très nombreuses crucifixions et à de très nombreuses morts d'hommes de condamnés sur la croix, cet homme s'est rendu compte que cette mort-là ne ressemblait à aucune autre. Il s'est peut-être converti. En tout cas, sa déclaration est une véritable déclaration de foi. Cet homme était vraiment fils de Dieu. Et on poursuit au verset 42. Le soir venu, c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du grand conseil, du Sanhédrin, qui lui aussi vivait dans l'attente du royaume de Dieu. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Pilate fut surpris d'apprendre que Jésus était déjà mort. Il fit appeler l'officier de service et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il autorisa Jésus à disposer du corps. Celui-ci, après avoir acheté un drap de lin, descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans le drap et le déposa dans un tombeau taillé dans le roc. Puis il roula un bloc de pierre devant l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, mère de Josse, regardaient où il le mettait. C'est le soir, probablement après 16 heures, qu'un homme dont on n'avait jamais entendu parler auparavant dans les évangiles demande à Pilate le corps de Jésus. Il s'agit de Joseph d'Arimathée. Selon la loi romaine, les condamnés à mort perdaient tout droit à une sépulture. Habituellement, on jetait les cadavres dans une fosse commune. Toutefois, les Romains rendaient parfois le corps à la famille si elle leur faisait la demande. Il semble étrange là que ce soit Joseph d'Arimathée qui ait demandé ce corps, et pas Marie, la mère de Jésus. Peut-être qu'elle était tellement bouleversée que c'est quelque chose qui lui a échappé, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un inconnu, pour ainsi dire, qui demande le corps de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? D'abord sur sa personne. On ne sait pas vraiment d'où il vient, car l'occasion d'Arimathée est incertaine. Il avait un poste important, en tout cas. C'est un membre du Sanhédrin, du Grand Conseil juif. Sur son caractère, c'est un trouillard qui est devenu courageux. Verset 43, il est dit « Il vivait dans l'attente du royaume de Dieu. Il eut le courage de se rendre chez Pilate. Il eut ce courage-là. Un trouillard devenu courageux. La mort de Jésus a changé quelque chose en lui. Auparavant, il était disciple de Jésus, mais a prié en secret, en catimini. Il avait peut-être peur du « qu'en dira-t-on ?» Mais après la mort de Jésus, on voit son courage. Le fait qu'il demande le corps de Jésus à Pilate est un acte de bravoure, un acte courageux. Pilate ne devait pas voir d'un bon œil qu'un homme membre du Sanhédrin, membre du conseil juif, qui venait de condamner Jésus, qui venait de pousser d'une certaine manière Pilate à condamner à mort Jésus, qu'un membre de ce conseil-là vienne lui réclamer le corps de Jésus. Ça ne devait pas forcément être une chose bien vue par Pilate. La prise de position de Joseph d'Arimathée, une prise de position publique, parce que tout le monde allait savoir qui c'est qui avait demandé le corps de Jésus. Cette prise de position publique allait faire sans aucun doute enrager les autres membres du Sanhédrin. Il ne pourrait plus rester caché après un tel acte. Il ne pourrait plus rester un disciple caché. Joseph a aussi pris le risque de se rendre cérémoniellement impur la veille d'un sabbat, ce qui était grave aux yeux d'un juif. On ne touchait pas un cadavre la veille d'un sabbat parce qu'on était impur dans ce cadre-là. Et on ne pouvait pas vivre le sabbat. En plus, un sabbat particulier, la Pâque. Mais Joseph a compris, a saisi, que l'impureté rituelle n'était pas grand-chose par rapport au geste qu'il devait faire pour Jésus. Sur son attitude envers Jésus aussi, il a beaucoup de respect pour Jésus, beaucoup de respect pour son corps. Deux gestes de sa part démontrent ce respect. Il a acheté un linceul et un drap pour couvrir le corps de Jésus, au verset 46. Il a enterré Jésus dans son propre caveau, a priori, dans cette grotte qui lui était réservée à Joseph. Il s'était préparé ce tombeau et il l'a offert à Jésus. On finit notre texte de ce matin avec l'épilogue final, chapitre 16, verset 1 à 8. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Il était encore très tôt le dimanche matin lorsqu'elles arrivèrent au tombeau. Le soleil se levait. En chemin, elles s'étaient demandées les unes aux autres. « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Or, en levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre avait été roulée sur le côté. Et c'est un bloc énorme. Elles pénétrèrent dans le caveau et virent assis sur du côté droit, un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies de frayeur. Mais le jeune homme leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié ? Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles se précipitèrent hors du tombeau et s'enfuirent toutes tremblantes, bouleversées. Elles ne dirent rien à personne, tant elles étaient effrayées. Le vendredi soir, plusieurs femmes avaient vu où Jésus avait été, où le corps de Jésus avait été déposé par Joseph d'Arimathée. Et durant le sabbat, elles n'ont rien pu faire. Et ont attendu la fin du sabbat, c'est-à-dire le samedi soir, selon la manière de compter les Juifs à l'époque, où la journée va du soir au lendemain soir. Donc le samedi soir, ils ont pris le temps d'acheter des aromates pour embaumer le corps de Jésus. Et cela démontre un aspect important. Ces femmes ne s'attendaient absolument pas à ce que Jésus ressuscite. C'était hors de propos pour elles. Elles étaient là pour embaumer un corps, le corps de leur maître, tout simplement. Elles ont laissé passer cette nuit, le lendemain matin, de bonne heure avant le lever du soleil, se sont dirigées vers le tombeau. On retrouve parmi ces femmes Marie de Magdala, une femme dont Jésus a libéré 7 démons, Luc 8, verset 2, et qui a été ensuite une de ses disciples, qui l'a aidée financièrement aussi. Une autre Marie, il s'agit de la mère de l'apôtre Jacques le mineur, un des 2 apôtres Jacques, et Salomé, enfin, l'épouse de Zébédée, la mère de Jacques et de Jean, 2 autres apôtres de Jésus. En chemin, ces femmes s'inquiètent seulement à propos de la pierre roulée. Comment on va faire ? Mais à leur arrivée, l'énorme pierre bouchant l'entrée a été roulée de côté. Et ces femmes entrent dans le sépulcre et sont à leur surprise par un ange. L'ange a un message bien particulier pour ces femmes, qu'on peut découper en 3 parties. D'abord, ces femmes ne doivent pas être effrayées. Cela démontre la tendresse de l'ange envers ces femmes-là. L'ange leur annonce la résurrection et leur prouve en indiquant le tombeau vide. Il leur dit au verset 6, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Il n'y a plus de corps, il n'y a plus personne à cet endroit-là. Le tombeau est vide. Et c'est la base de notre foi. La résurrection est ce qui distingue la foi chrétienne de toute autre religion, de toute autre foi. Et à ce propos, Hardy a écrit « Tombeau de Confucius, occupé. Tombeau de Bouddha, occupé. Tombeau de Mahomet, occupé. Tombeau de Christ, vide. » C'est la base de notre foi. Le tombeau était vide. Oswald Chambers l'a très bien résumé. La doctrine de la résurrection n'est pas secondaire, mais elle constitue un élément essentiel de la foi chrétienne. La renier, c'est ôter la clé de voûte du christianisme. Sans elle, la crucifixion de notre Seigneur aurait été vaine, car c'est la résurrection qui a validé la mort expiatoire et qui lui permet de nous sauver. L'ange charge ensuite ces femmes d'une mission importante. Ce sont elles qui doivent annoncer la plus belle des nouvelles aux disciples. Christ est vivant et les attend en Galilée, comme il leur avait dit. Pierre, l'apôtre Pierre, qui a rejeté Jésus, fait ici l'objet d'une mention spéciale. Pourquoi ? Parce que l'ange veut souligner qu'il fait toujours partie du groupe de disciples, qu'il est toujours un des disciples de Christ. En conclusion, Christ est passé de la mort à la vie, et ce sont 2 éléments essentiels, constructeurs de notre foi chrétienne. Ce sont les deux sont essentiels au message de la bonne nouvelle que ces quelques femmes ont commencé à transmettre il y a plus de 2000 ans et que se poursuit aujourd'hui. La mort de Christ est fondamentale à notre foi parce qu'elle nous révèle 3 vérités essentielles. D'abord, la réalité horrible de notre péché, parce que Christ n'est pas mort parce que Pilate l'a condamné à mort. Christ n'est pas mort parce que les chefs religieux l'ont condamné à mort. Christ est mort parce que j'ai péché. Parce que tu as péché, pour notre péché. L'amour extraordinaire de Dieu aussi, qui dépasse l'imaginable. Le don gratuit du salut qui est offert à chacun d'entre nous. Le voile s'est déchiré. Chacun a un libre accès auprès de Dieu aujourd'hui. La résurrection de Christ est tout aussi fondamentale à notre foi. Une espérance vivante, comme l'a dit Marcel lors de la scène. Nous avons une espérance vivante qui n'est pas morte. La résurrection est à la base de notre foi. Wilbur Smith a écrit « Quand Christ affirma qu'il ressusciterait des morts, 3 jours après sa crucifixion, il prononça une phrase que seul un fou se hasarderait à avancer, à moins d'être sûr de vraiment ressusciter. Aucun fondateur de religion dans toute l'histoire ne s'aventura jamais à faire une semblable déclaration. » Peut-être parmi nous ce matin, il y a des gens qui considèrent que Jésus est un grand homme. Je suis désolé de vous le dire, vous avez tout faux. Jésus ne peut pas être un grand homme. Jésus est soit un fou, soit le Fils de Dieu. Un homme qui aurait des paroles comme Jésus a dites, que comme Jésus les a dites, ne peut pas être considéré comme un grand homme. C'est un fou ou c'est le véritable Messie, le véritable Fils de Dieu. Et entre ces deux choix, la seule bonne attitude face à Jésus, c'est celle de Thomas. Thomas qui doutait. Lorsqu'il a vu Christ ressuscité, il s'est agenouillé et lui a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et je prie que chacun d'entre nous, nous ayons cette même réponse. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Amen.